Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
C'est la fin de journée, pour certains, mais pas pour Célia Morès. Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès, chaque mercredi, 17h-18h sur Nutri Radio. Vous savez pourquoi 17h-18h? Parce que 17h, c'est l'heure où on peut peut-être sortir du bureau, aller commencer, aller chercher des enfants à l'école, aller faire des courses, être un petit peu, se remettre un peu en mouvement. Et après avoir peut-être effectué des tâches routinières ou des tâches très pro, on se cultive, on apprend et on est éveillé pour écouter Célia Morès nous parler du cerveau. Alors, on a découvert le système nerveux central la semaine dernière. Je vous invite à réécouter cette émission passionnante qui est dispo en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Aujourd'hui, on va aller à la découverte du cerveau et vous allez bien nous expliquer d'abord l'anatomie du cerveau, Célia.
Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler du cerveau. Donc, chers auditeurs, la semaine dernière, on avait parlé de certaines structures du système nerveux central. Le cerveau fait aussi partie du système nerveux central. C'est-à-dire que je le redis, comme je l'avais dit dans une des émissions sur Nutri Radio, mais au cas où, le système nerveux central, c'est quoi? C'est le cerveau, le tronc cérébral, le cervelet et la moelle épinière. À savoir que le tronc cérébral, le cervelet et le cerveau, on en parle d'encéphale parce qu'ils sont insérés dans notre boîte crânienne. Notre cerveau, c'est quoi? Alors, l'anatomie du cerveau, vous la connaissez. Vous savez, c'est totalement plissé, c'est cette structure un petit peu avec des bosses et des sillons, c'est-à-dire des espèces de fentes et de creux. Ça, c'est notre cerveau. Le cerveau, il est impliqué dans quoi? Dans tout ce qui est nos activités, finalement, intellectuelles. On va parler un peu plus tard du cortex. Mais au niveau de l'anatomie, il est constitué de deux hémisphères. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Les deux hémisphères sont reliés par une structure qu'on appelle le corps calleux. Donc déjà, premier point et point important, on parle souvent de cerveau droit, de cerveau gauche, c'est tout à fait un neuromythe. On a deux hémisphères qui fonctionnent comme ils fonctionnent. Il ne faut pas penser qu'il y a le cerveau droit, le cerveau gauche, il y a toute une littérature sur ça, mais ça c'est un neuromythe. En fait, juste un petit point, pourquoi est-ce qu'on avait parlé du cerveau gauche peut-être plus logique que le cerveau droit? Tout simplement parce qu'il y a le centre, nous y viendrons un peu plus tard, du langage qui est situé au niveau du cerveau gauche. Donc, il y a eu un amalgame qui a pu être fait. Mais le cerveau est constitué de deux hémisphères. Ces deux hémisphères sont donc reliés par le corps calleux. Il faut savoir qu'au niveau de ce cerveau, avec ces hémisphères, ce corps calleux, on a ce qu'on appelle les circonvolutions, vous savez, ces espèces de bosses, de gyrus, qui sont au niveau du cerveau, là où il y a des neurones, notamment, et on a ces sillons. Donc, le cerveau, au niveau anatomie, il est séparé en quatre lobes distincts, comme les lobes crâniens. On a le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Et effectivement, il y a des sillons beaucoup plus importants, chers auditeurs, qui permettent de séparer, de diviser en quelque sorte ces lobes, de les différencier. Donc, par exemple, entre le lobe frontal et le lobe pariétal, c'est le sillon de Rolando. Entre le lobe frontal et le lobe temporal, c'est le sillon de Sylvius. On parle de sillon de Sylvius. Et entre le pariétal et l'occipital, c'est le sillon, tout simplement, c'est le plus simple à retenir, si je puis dire, pariéto-occipital. Ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que ces lobes cérébraux sont impliqués ont tous un rôle bien particulier. Le lobe occipital est notamment impliqué dans le traitement de l'information visuelle. Le lobe pariétal, j'en ai un petit peu parlé avec le tronc cérébral et la moelle épinière, il est impliqué dans quoi? Dans le traitement de l'information sensorielle, somesthésique, du toucher, de la nociception, de la température. Vibre-t-il aussi lorsque ça vibre, que vous avez votre téléphone qui vibre et que vous le sentez? C'est grâce notamment à l'interprétation de votre cortex pariétal. Au niveau du lobe frontal, qui est sous-divisé en plusieurs parties, on va avoir quoi? On va avoir notamment le cortex moteur qui va permettre d'initier, de réaliser des mouvements. Lorsque vous montez votre bras, c'est grâce notamment à l'implication du cortex moteur, mais aussi le cortex préfrontal impliqué dans la planification, dans le raisonnement, dans la prise de décision. Enfin, le temporal, et dans le cortex frontal, nous avons aussi l'aire du langage. Nous y reviendrons. Et effectivement, au niveau du cortex temporal, nous avons quoi ? Les structures impliquées dans la mémorisation, le cortex auditif, nous avons aussi une aire du langage, mais cette fois-ci non pas en tant que production du langage, mais de compréhension du langage. Donc, chaque structure, chaque lobe est impliqué dans quelque chose. Il faut savoir qu'au niveau anatomique, votre cortex, votre cerveau, va être constitué, mais nous y reviendrons en troisième partie d'émission, chers auditeurs, de substances grises et de substances blanches. Et au niveau de la couche externe du cerveau, on parle de cortex. Cortex parce que c'est une couche externe un petit peu épaisse et c'est là notamment où se situent les neurones qui nous permettent effectivement de penser, de planifier et d'effectuer effectivement notamment des mouvements. Voilà en quoi repose effectivement l'anatomie du cerveau. Et effectivement, chacune de ces régions que je viens de dire sont impliquées. Le fait qu'il y ait ces gyrus et ces sillons, c'est très important pour délimiter le cerveau, pour délimiter certains autres types de régions, parce qu'il y a des sillons dont je n'ai pas parlé qui sont un peu plus internes. Mais voilà comment est représenté votre cerveau. Deux hémisphères, cet aspect totalement plissé que l'on voit, que vous pouvez voir lorsque vous tapez sur Internet, effectivement, cerveau, et le fait que toutes les régions soient interconnectées entre elles, effectivement, via les axones, via donc la substance blanche dont nous parlerons en dernière partie d'émission.
Merci Célia. Alors, ça fait deux fois que vous me faites des feintes, vous faites semblant de vous arrêter et vous repartez. Donc maintenant, je suis très attentif et n'oubliez pas ce que vous a dit Célia et on remercie Célia. Quand ça vibre, on dit merci le cortex pariétal. On marque une pause et on se retrouve juste après ceci.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Célia Morès, la suite de cette émission, la sphère neuro, on explore le cerveau sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, on découvre non seulement son anatomie, c'est ce que Célia vous expliquait en première partie, mais également l'organisation fonctionnelle du cerveau, Célia.
Totalement, Fabrice et chers auditeurs, parce que finalement, là, j'ai parlé de l'anatomie pour que vous sachiez à peu près comment ça fonctionne, ce qu'est le cerveau et voilà, les différentes parties du cerveau, effectivement, les sillons, etc. Au niveau de l'organisation fonctionnelle, en fait, dans le cerveau, on va avoir deux types, alors, on va vulgariser un petit peu, deux types d'aires. On va avoir les aires sensorielles. Ces aires sensorielles, elles vont être dédiées à quoi ? À capter les infos sensorielles, à capter, pardon, les informations sensorielles qui viennent de la périphérie. Donc, l'exemple précédent, première partie que je prenais du portable qui vibre, effectivement, l'information via la moelle épinière, via le tronc cérébral, va monter au cortex pariétal. Et dans ce cortex pariétal, on va avoir des aires sensorielles qui vont capter ces informations sensorielles. Donc, on a des aires sensorielles, effectivement, dans tous les lobes du cerveau. Par exemple, l'information visuelle va être captée au niveau du lobe occipital. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le lobe occipital est dédié à l'information visuelle. Donc, on va avoir des régions dans ce lobe occipital qui vont être dédiées au traitement de l'information visuelle. Il y a trois types de régions. Finalement, on parle de primaire, secondaire, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une première région qui va capter les informations, chers auditeurs, totalement brutes, visuel. Puis ensuite, il y a une région toujours sensorielle qui va affiner finalement ces données-là au fur et à mesure pour pouvoir les traiter correctement. Donc ça, c'est au niveau de l'information sensorielle. Donc le cerveau, il y a beaucoup, beaucoup de zones dédiées. Il y a plus d'ailleurs de zones dédiées à l'information sensorielle que à l'information motrice, que d'air motrice. Donc il y a plus d'air sensoriel dans le cerveau finalement que d'air motrice. À savoir qu'il y a des aires sensorielles qui sont totalement spécifiques d'un sens. Hein. Donc on a l'air sensoriel au niveau du lobe occipital, les aires sensorielles pour traiter l'information visuelle. Au niveau du temporal, vous allez avoir les aires sensorielles pour traiter les informations auditives. Dans tout ce qui va être gustatif et olfactif, là aussi, ça va traiter ce type d'information sensorielle. Et au niveau du pariétal, l'information, par exemple, sensorielle somesthésique. Ensuite, bien évidemment, on ne traite jamais une information de manière séparée. Généralement, on fait appel à tous nos sens. Si je vous dis pomme, si je vous dis poire ou si je vous dis téléphone, etc., on a tous les informations sensorielles qui nous viennent à l'esprit, à la fois visuelles, auditives, etc. Et on va avoir des sites au niveau du cerveau qui vont converger ces informations sensorielles pour traiter l'information sensorielle dans son ensemble, dans ses différents aspects, à la fois visuels, auditifs, etc., tactiles, et qui va nous permettre d'interpréter ces données, comme nous l'avons vu dans l'émission réalisée il y a peut-être à peu près un an, mais c'est retrouvable dans les podcasts sur Nutri Radio, justement sur la perception. La perception, lorsque vous pouvez traiter une information et dire « ça, c'est un téléphone, ça, c'est un stylo, etc. », c'est que vous avez perçu, évidemment, visuellement des informations visuelles, cortex occipital, traitées par vos aires sensorielles du cortex occipital qui a regardé les formes, la couleur, et l'objet, qui a reconnu l'objet et ensuite donné une signification au niveau du cortex. Donc, on a ces aires sensorielles. Suite à ça, on a aussi les aires motrices, puisque j'ai dit qu'on avait un cortex moteur au niveau du cerveau. Donc, les aires motrices sont moins nombreuses et on va avoir deux types d'aires motrices, celles qui vont permettre de planifier un mouvement et celles qui vont permettre réellement de l'effectuer. C'est-à-dire celles qui vous permettent, lorsque vous levez le bras, à la fois vous planifiez le mouvement lorsque vous voulez lever le bras, donc c'est certaines aires motrices du cortex au niveau frontal, et le fait de lever le bras, c'est l'aire motrice au niveau du cortex qui vous permet évidemment que c'est vos neurones moteurs envoient les informations à vos organes, à vos muscles, via les différentes structures que nous avons vues dans l'émission la semaine dernière, pour que vous puissiez lever le bras. Et c'est ce qui explique aussi, chers auditeurs, que lorsque vous voyez quelqu'un lever le bras, si on vous demande de lever le bras, vous allez être beaucoup plus rapide que quelqu'un qui n'a pas vu cette personne lever le bras. Pourquoi ? Parce que les neurones dédiés à la planification du mouvement, en voyant quelqu'un lever le bras, se sont activés d'office comme s'ils allaient devoir lever le bras aussi. C'est ce qu'on appelle effectivement, peut-être vous en avez entendu parler, chers auditeurs, des neurones miroirs. En dehors des aires sensorielles et des aires motrices, on a ce qu'on appelle les aires de Brodmann. Alors, c'est quoi les aires de Brodmann ? Il y en a 52. Alors, qu'est-ce qu'a fait Brodmann ? C'est qu'en fait, il a regardé la cytoarchitecture des neurones, c'est-à-dire, finalement, il a regardé les neurones qui se ressemblaient et il a regroupé cytoarchitecture des neurones, donc comment est-ce qu'ils étaient au niveau cellulaire. Il a regroupé ces neurones dans des zones, il a différencié ces différents types de zones et il y en a 52, donc ça va de BA1 à BA52. BA ben pour Brodmann et 1 pour la première zone et 52. Par exemple, la zone motrice, c'est la BA6. On a une zone dédiée, dont je ne pourrais plus vous dire les numéros parce que ce n'est pas le but de citer tous les numéros, qui est dédiée au langage. Mais à quoi sert d'avoir fait cette cartographie si précise ? Tout simplement lorsque un médecin, dans un neurologue, on doit intervenir sur le cerveau et devoir stimuler une zone, ça permet de savoir exactement où la stimuler puisqu'on a la cartographie du cerveau avec les différentes zones. Donc, on sait qu'on doit stimuler la zone BA6 pour produire un mouvement pour voir ce que ça donne. On sait qu'on doit stimuler tel type de zone et ça permet surtout de ne pas faire d'erreur parce que le cerveau humain, on pense qu'il est grand, mais il n'est pas si grand que ça. Hein. Il est dans votre boîte crânienne, donc vous imaginez bien que ce n'est pas énorme et les zones sont très, très rapprochées. Ce n'est pas des grosses zones, c'est vraiment très, très fin. Donc, ça permet de pouvoir, avec cette cartographie précise, chers auditeurs, de stimuler les zones précises que vous voulez stimuler. Et donc, notamment, ça va être utilisé, évidemment, alors, dans certaines prises en charge, hein, ça peut être effectivement, maintenant on parle beaucoup de TMS, hein, c'est une stimulation transcrânienne, mais pas que, si on doit stimuler certaines zones ou faire certains types d'enregistrements, ça permet réellement d'aller sur la zone adéquate. Donc, 52 zones, les aires de Brodmann qui a totalement cartographié le cerveau en raison de la cytoarchitecture des neurones. Donc, il a fait comme nous, hein, chers auditeurs, dans la perception. Lorsque nous, on regroupe des éléments semblables. Hein, dans une figure, chers auditeurs, vous avez des ronds et des carrés. Vous allez généralement regrouper les ronds et les carrés ensemble, notamment s'il y a des lignes de ronds, des lignes de carrés. Vous allez traiter la ligne de rond, la ligne de carré comme deux entités différentes. Et bien, votre cerveau, il a fait pareil, Brodmann. Il a regroupé les éléments qui étaient ensemble. Ça lui a permis de cartographier effectivement le cerveau. Et ensuite, de cette cartographie, il a pu dédier que chacune des zones, BA6, BA machin, BA4, etc., était dédiée à certaines informations bien particulières. Tout simplement. chers auditeurs.
Tout simplement. Elle ose dire ça, tout simplement. Oui, c'est vrai que ça paraît simple, dit comme ça, mais la vérité est tout autre, en particulier chez certaines personnes que nous n'allons pas nommer. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, La Sphère Neuro, sur Nutri Radio.
La Sphère Neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
La suite de cette émission, La Sphère Neuro, consacrée à la découverte du cerveau, l'anatomie du cerveau, son organisation fonctionnelle. Et enfin, tiens, on va parler, ça on dit souvent, la matière grise. Qu'est-ce que la matière grise? C'est quoi cette substance grise, substance blanche? Est-ce que d'ailleurs que quand on dit matière grise, on fait allusion à ces substances?
Alors, les substances grises et la substance blanche, c'est vrai que là, on parle beaucoup de petites cellules grises, chers auditeurs. Vous savez, si vous suivez parfois Hercule Poirot, tout ce qui est Agatha Christie, à chaque fois dans la série Hercule Poirot, il dit « mes petites cellules grises ». Bah, les cellules grises, c'est quoi? C'est vos neurones. Et la substance blanche, c'est les axones. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le premier émission sur, effectivement, en neurosciences pure, et que j'ai expliqué ce qu'était un neurone, chers auditeurs, je vous ai dit que le neurone était constitué de quoi? D'un corps cellulaire, effectivement, où il y avait le noyau, etc. De dendrites, et c'est par là que notamment les informations arrivaient aux neurones, ou alors elles pouvaient arriver directement au niveau du corps cellulaire, et qu'on avait un axone qui partait du corps cellulaire pour transmettre l'information à d'autres neurones. Donc, ce qu'on appelle substance grise, c'est tout simplement les dendrites et les corps cellulaires des neurones. C'est là où se situe notre pensée. Ces corps cellulaires de ces neurones se situent généralement dans notre cortex, c'est-à-dire dans l'écorce supérieure du cerveau. Cette couche supérieure relativement mince, va-t-on dire, du cerveau, si je puis dire, là où se situe finalement notre pensée, nos actions, nos prises de décision, etc., etc. C'est à ce niveau-là. Les neurones, c'est ça, la substance grise. Pourquoi? Parce que c'est un aspect, lorsqu'on coupe le cerveau, lorsqu'on fait des tranches de cerveau, en post-mortem, je ne sais pas, chers auditeurs, si vous avez déjà vu des coupes de cerveau humain ou des photographies sur Internet, mais il y a cet aspect un petit peu grisâtre. C'est dû à quoi? La présence de corps cellulaires et des neurones. En revanche, donc, penser, permettre de réfléchir, de planifier, c'est grâce à nos cellules grises. En revanche, la substance blanche, c'est quoi? C'est finalement nos axones. Et pourquoi est-ce qu'on appelle substance blanche, chers auditeurs? Tout simplement parce que lorsqu'on fait des coupes de cerveau comme ça, notamment humains, mais pas que, c'est un aspect blanchâtre. Et cet aspect blanchâtre, il est dû à quoi? Au fait que la plupart de nos axones sont recouverts de gaines de myéline. Et c'est cette gaine de myéline qui donne cet aspect blanchâtre. Et la substance blanche permet quoi? De transmettre l'information de neurone en neurone, mais du coup, de région en région. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, on va avoir plusieurs types, si je puis dire, de substances blanches. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est un petit peu ça. Par exemple, le corps calleux, qui permet effectivement de transmettre l'information de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, ce sont des axones, donc ce sont de la substance blanche, donc qui permet la transmission de l'information entre les deux hémisphères, parce que bien évidemment, les deux hémisphères dialoguent entre eux. Hein, sinon, on ne serait pas coordonné au niveau de nos différents mouvements et au niveau aussi de notre action comportementale. Suite à ça, la substance blanche, de neurone en neurone, ça peut être des neurones proches dans la même région cérébrale, dans le même lobe, ou même déjà, même dans le même lobe, une région très très proche. Ou alors, ça peut évidemment innerver des régions plus profondes du cerveau, et même aller jusqu'au tronc cérébral, etc., etc. Donc, on a des axones plus ou moins longs qui vont innerver les différentes régions du cerveau pour qu'il y ait un dialogue entre nos différents neurones, et c'est ça la substance blanche, c'est tout simplement la transmission de l'information. Donc, la substance grise, c'est le départ de l'information, c'est la pensée, c'est ce qui vous permet de faire quelque chose, d'initier un mouvement, ça vous permet effectivement de planifier une action. Et la substance blanche, tout simplement, que sont les axones, donc recouverts de myéline, c'est pour ça qu'on les appelle substance blanche, ça permet de transmettre l'information, effectivement, d'aller porter l'information comme une voie d'autoroute, de transmettre l'information comme quand on est au téléphone, hein. On a son téléphone, on est en train de parler, donc c'est notre corps cellulaire, c'est notre substance grise, et effectivement, la connexion téléphonique permet effectivement de transmettre votre voix, votre son, l'information effectivement à votre interlocuteur. C'est exactement la même chose. Substance grise, pensez aux cellules grises d'Hercule Poirot. Réflexion, pensée, je raisonne, je planifie une action, je peux initier un mouvement, etc. Et quant à mes axones, substance blanche, tout simplement recouverte de myéline, chers auditeurs, et ça vous permet de faire quoi? De transmettre l'information et que les différentes régions cérébrales dialoguent entre elles et de pouvoir notamment, si le cerveau transmet l'information au tronc cérébral et ainsi de suite, ça va vous permettre d'initier le mouvement. Effectivement, ça peut être aussi, ça va vous permettre de penser. N'oubliez pas, on en a déjà parlé, la planification, le raisonnement, c'est parce qu'il y a des neurones qui sont interconnectés entre eux. Donc, ils se situent peut-être dans le cortex frontal, mais ces neurones interconnectés entre eux, effectivement, il va y avoir libération de neurotransmetteurs grâce à l'axone sur un autre neurone. Et c'est ça votre substance blanche. Et quand on fait une coupe, que ce soit chez le rat ou n'importe quel autre animal, et notamment aussi chez l'humain, vous verrez que si vous regardez des photos, chers auditeurs, sur Internet, ou si vous avez la chance de voir un cerveau en vrai, un cerveau humain en vrai, vous allez voir que au-dessus, tout ce qui est cortex, effectivement, la région au-dessus, proche des circonvolutions, proche de ce côté plissé, va être beaucoup plus grise et beaucoup plus foncée, et que le reste, évidemment, va être beaucoup plus blanc, parce que, justement, c'est entouré de gaines de myéline.
Oh là là, et quand Célia, elle vous dit, vous savez, vous imaginez, vous écoutez la radio, et là, Célia vous dit, si vous avez la chance, chers auditeurs, de voir un vrai cerveau, un cerveau comme ça découpé, non, Célia, ce n'est pas une chance, excusez-moi, on ne rêve pas de ça, là, de voir un cerveau comme ça.
Ah si, 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 chers auditeurs, c'est magnifique à voir, hein, j'ai eu de la chance d'en voir, cher Fabrice et chers auditeurs, pendant mes cours de neurobiologie à la fac, c'est merveilleux de pouvoir voir un cerveau humain, de pouvoir voir vraiment les structures du cerveau humain, quoi. C'est quand même totalement magique. Hein, c'est de voir comment ça fonctionne et cet organe finalement si petit, comment est-ce qu'il peut finalement tout coordonner notre vie et être finalement à l'origine de tout, quoi. Enfin, c'est pour moi, ça avait quelque chose de totalement magique et un petit peu
bon. Écoute, vous les collectionnez pas?
Alors, je ne les collectionne pas,
mais
où j'ai eu des cerveaux de rats dans mon réfrigérateur. Alors, la petite histoire, c'est que je suis arrivée donc pour faire un DEA, un diplôme d'études approfondies sur Paris, et je travaillais sur le rat à l'époque, sur un modèle de rat schizophrène, c'est-à-dire qu'on avait effectivement créer des anomalies au niveau de certaines régions cérébrales qui mimaient les mêmes anomalies que l'on pouvait observer chez les patients schizophrènes. Et comme je devais travailler sur mes cerveaux que j'avais récupérés, donc j'avais tué mes rats, j'avais récupéré les cerveaux de rats, il fallait les changer de bain pour pouvoir ensuite faire des coupes. Et pour éviter de rester, c'était d'ailleurs pas conseillé parce qu'elle est fermée dans le laboratoire jusqu'à minuit, 1h du matin pour avoir à changer que les bains, hein, on veut dire que changer le produit qu'il y avait dedans, notamment le formol ou tout type de produit, j'avais ramené effectivement dans mes petits tubes mes cerveaux, je devrais pas le dire, mais j'avais ramené mes cerveaux de rats à la maison que j'avais mis évidemment dans le frigo, puisqu'il fallait les garder au frais. Ce qui pouvait être évidemment surprenant quand j'ai des amis qui parfois passaient, qui voyaient mes petits cerveaux. Voilà. Mais je l'ai fait, oui, effectivement. Et ça ne m'aurait pas déplu d'avoir, comme dans les films, des cerveaux dans des bocaux un petit peu partout. Ça m'aurait assez plu d'ailleurs de pouvoir en disposer, mais malheureusement, ce n'est pas possible.
Vous avez tué vos rats?
À l'époque, oui, c'était, j'avais pas le choix, puisqu'il fallait faire des analyses justement sur les structures cérébrales et que on va pas tuer un humain. Hein.
Non, mais les rats, ils étaient quoi? Vous les avez trouvés? Comment vous avez trouvé les rats? L'émission va prendre une tournure incroyable. Où est-ce que vous avez trouvé
les rats? Tout simplement, c'est des rats de laboratoire, donc qui ont été, j'allais dire, qui ont été conçus pour. Quand on est en laboratoire animal, quand on fait des manipulations animales, on sait qu'on a certains laboratoires qui nous fournissent les rats ou les souris, et justement, ce sont ce qu'on appelle les rats de laboratoire ou les souris de laboratoire qui sont totalement dédiés à la manipulation, aux expériences. C'est-à-dire, à aucun moment, on va les chercher dans le métro parisien ou on va les chercher à la campagne. C'est des rats. Alors, parfois, ils ont été même mutés, si je puis dire. Mais c'est fait pour, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, mais c'est vraiment les rats utilisés en laboratoire. Donc, on a les boîtes qui nous, et on commande tant de rats, tant de souris, etc. Évidemment, je précise aux auditeurs que c'est totalement éthique et qu'il faut justifier de combien on voudra et qu'est-ce qu'on veut leur faire dessus. Pareil pour les souris, hein, c'est pas, on fait pas ce qu'on veut. Il faut vraiment justifier des conditions dans lesquelles ils vont être effectivement hébergé, mais aussi ce qu'on va faire dessus. Et si on demande 10 rats, c'est pas 11 rats ou 12 rats. Il faut vraiment, et si on demande 10 rats, c'est parce qu'on a vraiment besoin de 10 rats. C'est pas juste au cas où, hein. Donc, c'est vraiment dans des conditions. Et évidemment, on ne les fait absolument pas souffrir. C'est pas le but, mais bien au contraire.
Attendez, Célia, vous les tuez comment? On les fait pas souffrir. Vous savez comment ça se tue un rat, pardon?
Alors, généralement, moi, pour les souris, j'ai déjà utilisé la guillotine. Donc,
oh
c'est direct.
Non, c'est horrible.
Les rats, effectivement, ensuite, on tranche d'un coup sec. Hein. Ça, après, il y a plusieurs méthodes aussi pour
Attendez,
pour
mais
tuer.
Ils bougent dans la main. Comment ils font? Ils sont endormis?
Non. Non, on peut pas les endormir parce que si on les endort, on peut changer les structures cérébrales et on peut ne pas voir ce qu'on veut voir. Donc généralement, on les endort pas, mais le but est effectivement de surtout pas les stresser, parce que si jamais, par exemple, on n'arrivait pas à les tuer ou il y avait un stress parce que bon, s'ils prenaient mal, ce qui pourrait arriver parfois, hein, parce que bon, effectivement, ça engendrerait du stress à l'animal et du coup, ça modifierait certaines régions cérébrales. Enfin, on pourrait ne pas voir ce qu'on veut dû au stress. Donc en fait, le but est surtout de y faire attention. Mais il y a quand même un comité d'éthique qui regarde bien la manière dont on va effectivement tuer les animaux, ce qui peut être fait. Et aussi, on a généralement, moi j'en avais passé un des deux, puisque le deuxième ne me concernait pas, c'était trop administratif, hein, le niveau 1, mais j'avais passé le niveau 2 d'expérimentation animale qui me conférait le droit de travailler sur les animaux en laboratoire.
Très bien.
C'est-à-dire de pouvoir faire des expériences.
Parce que là, il ne faut pas stresser. Alors, la personne qui arrive avec un couteau, le rat ne va pas stresser. Alors, vous lui chantez une petite chanson, petit ami, le rat, et rac ! Comment ça se passe?
C'est un peu ça. Parfois, on le caresse un petit peu, etc. Mais non, mais c'est vrai que je rassure tout le monde. Ah. On est très loin des aspects de vivisection dont on entend parler ou d'horreur qu'on entend parler.
Mais ça ne nous rassure pas du tout. Mais ça ne nous rassure pas du tout. Là, Célia, vous ne nous avez pas du tout rassuré. Vous allez.
Ah, mais pas du tout, non. Bien au contraire. Enfin, je veux dire, ils sont super bien traités. Bon, après, c'est vrai que malheureusement, il y a des expériences qu'on ne peut mener que chez les animaux, puisque
oui,
c'est
non,
pas possible de faire chez l'humain.
Non, mais après, bon, voilà, c'est toute une partie. C'est vrai qu'il y a des expériences qui sont menées sur les animaux. Et grâce à eux, la science avance. Après, là, on est vraiment. C'est la partie dont c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie vraiment de savoir. Donc là, merci de nous ouvrir les portes. Et donc, pour aller encore plus loin, la guillotine, c'était quoi? C'est avec un petit couteau de cuisine, avec un petit.
Non, la guillotine, c'est comme une guillotine. Hein. Imaginez la guillotine au temps de Louis XVI. On a un appareil comme ça. On met le rat dans. Au moins, c'était. Alors là, c'était des souris pour la guillotine. On met la souris dans. On lui met sa tête comme ça et on fait tomber la guillotine sur sa tête.
D'accord. Et alors, juste un truc, Célia, donc on était, parce que vous n'étiez pas toute seule chez vous avec un petit couteau, c'était dans un cadre.
Non, c'était en laboratoire, appareil, sous contrôle, etc. Non. La seule chose que j'ai ramené chez moi, ça a été les cerveaux, tout simplement pour changer les bains, pour éviter d'avoir à rester au laboratoire parce que ce n'était pas possible. Et ensuite, mais le cerveau que j'avais récupéré, ça avait été au laboratoire lui-même, avec évidemment mes encadrants, qui m'avaient montré la technique et tout, et les techniciens qui étaient aussi, parce qu'il y a des techniciens dans un laboratoire qui étaient en fait, j'allais dire, rompus à l'exercice. C'est-à-dire que moi, on m'en avait fait une ou deux, mais après, évidemment, comme eux en faisaient plus, c'est plutôt eux pour que moi, je puisse récupérer le cerveau et justement qu'on ne fasse pas souffrir l'animal et que ce soit fait dans les extrêmes conditions, dans des très, très bonnes conditions, à la fois pour l'expérience, mais surtout pour le bien-être animal. Ça, c'était quand même, c'est une condition sine qua non. Sinon, on nous aurait fait quelque part fermer le labo, je pense. C'est pas possible. Et ensuite, après, je ramenais le lendemain mes cerveaux et je le mettais dans un appareil pour pouvoir faire des coupes de cerveau. Comme on peut le voir, très fine, parce qu'il n'est pas question non plus, chers auditeurs, de prendre un couteau. C'est des coupes de quelques microns, justement, pour observer les anomalies cérébrales que je voulais observer. Donc, c'est très, très fin. Et là, bon, à ce moment-là, une fois que vous avez le cerveau, vous le mettez dans votre appareil et ça tranche un petit peu comme les trancheuses de jambon, si je puis dire. C'est un petit peu le même principe. On demande à l'appareil, on planifie l'appareil, on le programme pour qu'il nous fasse des coupes de tant de microns et ça nous sort on tourne la manivelle, ça nous sort nos coupes et ensuite on peut observer ce qui se passe au niveau du cerveau. Ce qui n'est pas possible sur l'humain, sauf à faire passer des IRM et c'est peut-être pas toujours si profond. Et en plus, l'avantage de travailler sur l'animal, cher Fabrice et chers auditeurs, c'est tout simplement que on peut faire injecter certains produits, voir ce qui se passe, alors que ce n'est pas possible effectivement chez l'homme. Hein. Notamment, il y a eu des expériences menées sur des produits comme le modafinil au niveau de l'armée, qui est un produit effectivement pour maintenir éveillé et pour voir l'aspect, l'impact du modafinil en situation de stress. Ben, il est bien évident qu'on commence d'abord par des études chez l'animal pour savoir ce que ça donne, mais évidemment dans de bonnes conditions pour d'abord avoir de bons résultats. Ils sont plus que bien traités. Y a des normes très 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 importantes et si on les respecte pas, bon, la vie du laboratoire pourrait poser problème pour la continuité de la vie du laboratoire. Hein, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
En tous les cas, merci d'avoir été aussi complète. Je ne pensais pas du tout qu'on allait terminer l'émission là-dessus, mais ça méritait des explications, bien évidemment. Merci à vous, Célia. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. En tout cas, si jamais on doit aller dîner un jour ensemble, je ne veux pas que vous ayez un scalpel dans votre sac, parce que vous êtes patient pour le cerveau.
Non, vous inquiétez pas, pas de scalpel sur moi ni rien du tout. Et j'avoue que je suis bien contente d'avoir arrêté tout ce qui était expérimentation animale parce que j'avoue que c'était pas tout à fait mon truc quand même.
Bon, allez, on va. De toute façon, il faut bien que quelqu'un s'y dévoue pour que la recherche avance. Et à un moment donné, ça se fait pas tout seul. Donc, merci à vous. L'émission en podcast à partir de dimanche, 18h dans son intégralité. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir, Célia.
Au revoir, Fabrice. Au revoir. À la semaine prochaine, chers auditeurs.
La sphère neuro. Célia Mores sur Nutri Radio.